France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'info. C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Quand Bill Clinton et Barack Obama appellent les Américains à se lever après la mort ce week-end d'un deuxième citoyen à Minneapolis, tué à bout portant par la police fédérale, Donald Trump impute lui ce décès au chaos créé par les démocrates. Nous serons sur place pour recueillir la tristesse, mais plus encore la colère des habitants. Après, vous l'entendrez, à prendre les armes, et puis on tâchera d'analyser le malaise qui commence malgré tout à envahir le camp républicain. On se rendra en Allemagne où les Européens doivent discuter aujourd'hui sécurité et indépendance énergétique. Et puis l'actualité en France, c'est tout d'abord l'ouverture ce matin à Paris du procès en appel de 4 des 8 accusés condamnés pour l'assassinat de Samuel Paty. Nous serons en direct de la cour d'assises spéciale. On en parlera également avec notre invité. On détaillera par ailleurs les conditions de la fermeture à venir du collège-lycée privé catholique Bétarame. Enfin, on reviendra sur la fin de 30 années de dynastie d'extrême droite à Orange après que le maire de la ville, Yann Bompard, a été condamné ce matin à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Tandis que depuis hier, une exceptionnelle tempête hivernale déferle sur les États-Unis, une autre tempête tout aussi saisissante d'effroi, cette fois-ci, continue de s'abattre sur le pays après qu'un homme est mort samedi, non pas de froid, mais de colère, venu manifester contre la répression en cours à Minneapolis, avec son cortège de violences policières inhumaines, le tout sur fond d'impunité des agents de l'ICE, la police de l'immigration. Alex Pretty, 37 ans, un infirmier inconnu des services de police, a été lâchement tué alors qu'il était déjà au sol. Et depuis, eh bien, les circonstances de cette exécution en public suscitent partout l'indignation, jusqu'à souffler comme un air glacial de guerre civile dans cette ville déjà traumatisée par la mort il y a moins de 3 semaines de René Goud, une américaine de 37 ans abattue au volant de sa voiture. Notre envoyé spécial Olivier Poujade a rencontré Jake, un manifestant qui prévient, si l'administration ne remet pas en question sa méthode, les habitants, eux, se tiendront prêts pour riposter.
Ce que je vois autour de moi, c'est des gens qui se préparent à un conflit. Je connais des gens des deux côtés de la barrière et je peux vous dire que chez les habitants, ils sont en train de s'armer pour se protéger. Autour de chez moi, mes voisins chasseurs nettoient leurs armes et achètent des munitions. Ils ont aussi des calibres militaires pour protéger leur entourage, protéger les voisins contre l'ICE. Pas contre la police locale, eux, ils les laissent entrer, mais c'est contre le gouvernement fédéral qui... pense ne devrait pas défoncer les portes des gens.
Alors, dès les premières heures qui ont suivi ce meurtre, une bataille pour les preuves s'est aussitôt engagée entre les autorités locales d'un côté et le gouvernement fédéral de l'autre. En l'occurrence, plusieurs témoignages, de même que l'analyse d'une vidéo de la scène, viennent contredire la version de l'administration Trump. Côté réaction, Bill Clinton et Barack Obama ont tous deux appelé ce week-end les Américains au sursaut pour défendre leurs valeurs. Les démocrates projettent également de voter contre le projet de loi de finances, lequel comprend notamment l'attribution de quelque 64 milliards de dollars au département chargé d'appliquer la politique migratoire voulue par Donald Trump. Enfin, chez les Républicains, Frédéric Saïs, un certain malaise commence à se faire ressentir à quelques mois des élections de mi-mandat.
Ce n'est pas encore une fronde, mais ce sont des nuances, des réserves affichées publiquement, ce qui, dans l'Amérique trumpiste, est déjà le signe d'un malaise. Nous devons préserver nos valeurs fondamentales, notamment le droit de manifester, alerte le sénateur républicain Pete Ricketts, proche de Donald Trump. Il appelle, comme plusieurs autres élus, à une enquête rapide et approfondie. Alors, aucun d'entre eux ne conteste l'objectif, l'expulsion massive de migrants clandestins, mais ils dénoncent la méthode, tout comme de plus en plus d'électeurs de Donald Trump. Selon un sondage pour le site Politico, un tiers d'entre eux désapprouve la manière dont cette politique d'expulsion est mise en œuvre, un tiers des électeurs de Trump lors de la dernière présidentielle. Et encore, ce sondage a été réalisé avant le meurtre d'Alex Pretty ce week-end, mais après la mort de René Goud, une autre protestataire tuée à Minneapolis par un agent fédéral il y a 3 semaines. Alors autour de Donald Trump, les ministres font bloc. Christine Homme, la patronne de la police de l'immigration, affirme que ses agents ont procédé à des tirs défensifs, je cite, envers une personne porteuse d'une arme et menaçante. Mais au sein du ministère de la Sécurité intérieure, plusieurs cadres anonymes confient leur désarroi et leur désaccord dans la presse américaine. Plus grave pour Donald Trump, le lobby des armes à feu, traditionnel soutien des républicains, prend la parole. Il s'insurge contre les justifications apportées à ce meurtre. Elles sont fausses et dangereuses, écrit la NRA. Non, porter une arme sur soi à proximité des forces de l'ordre ne fait pas de vous une cible, s'indigne en substance ce lobby. Il invoque le deuxième amendement de la Constitution, celui qui garantit à tout Américain la liberté de porter une arme.
Plusieurs dirigeants européens ont prévu de se retrouver à Hambourg aujourd'hui pour y discuter coopération énergétique et sécuritaire en mer du Nord.
Et même s'il n'est pas officiellement à l'ordre du jour, nul doute que l'avenir du Groenland devrait occuper une large place dans ce sommet, compte tenu à la fois des ambitions américaines, mais aussi de la menace russe. Les précisions de Nathalie Versieux.
9 pays riverains sont représentés au sommet sur la mer du Nord, un format créé en 2022 en réponse à l'agression russe en Ukraine pour avancer sur les questions énergétiques. Une fois de plus, Donald Trump aura bousculé l'ordre du jour d'une rencontre internationale à laquelle il n'était pas convié. Je suis certain, au vu de la composition de la réunion, que la sécurité dans le Grand Nord sera également dans l'intérêt des participants, a noté un porte-parole du gouvernement allemand en amont de la réunion, alors que le président américain affirme toujours son intérêt pour le Groenland. La première ministre danoise, des représentants de l'Islande et de l'OTAN seront présents au sommet. Une autre ombre planera au-dessus des discussions de Hambourg, celle de Vladimir Poutine, que les Européens accusent de multiplier les attaques hybrides dans la région. Les participants aborderont notamment la question de la sécurité des câbles sous-marins, des gazoducs et de la protection des éoliennes offshore. En Allemagne, les survols de drones au-dessus de ces installations se sont multipliés au cours des derniers mois.
Midi et 36 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Faut-il interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et les téléphones portables dans les lycées? Ainsi que le réclame ardemment le gouvernement et le président Emmanuel Macron, les députés seront appelés cet après-midi à se prononcer sur ces deux mesures destinées à protéger la santé mentale des adolescents. La liste des risques identifiés est connue, cyberharcèlement, exposition à des contenus violents, mais aussi captation de l'attention au détriment du sommeil. Sauf surprise, la proposition de loi devrait recevoir le feu vert de l'Assemblée, ce qui signifie que le texte ira ensuite au Sénat. De son côté, le gouvernement veut aller vite avec des mesures mises en œuvre dès la rentrée de septembre. Sauf que pour que l'interdiction devienne une réalité, eh bien un système de vérification d'âge efficace devra être mis en place et des travaux sont toujours en cours au niveau européen.
C'est l'un des actes sanguinaires les plus atroces commis ces dernières années en France, en partie né du mensonge d'une élève âgée de 13 ans.
Un mensonge massivement relayé sur les réseaux sociaux, justement, jusqu'à d'abord nourrir une campagne de colère et d'intimidation et ensuite attiser la haine d'un esprit radicalisé, un islamiste tchétchène qui, le 16 octobre 2020, allait décider d'assassiner sauvagement Samuel Paty, professeur d'histoire géo aux abords de son collège dans les Yvelines. Et bien, ce matin a débuté le procès en appel de 4 des 8 personnes, toutes condamnées en première instance à des peines allant de 1 à 16 ans de réclusion criminelle. Florence Turm, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de la Cour d'assises spéciale où vous avez assisté donc à cette première audience. Quels sont, Florence, les enjeux de ce nouveau procès ?
Eh bien, pour ce second procès, on pourrait diviser le box des accusés en deux. D'un côté, les amis de l'assassin, Naïm Boudaoud et Azim Epsirkanov, tous deux condamnés à 16 ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat. Les juges ont estimé qu'ils étaient parfaitement conscients de la dangerosité du terroriste et qu'ils l'avaient pourtant aidé, notamment dans sa recherche d'armes. De l'autre côté, les deux hommes condamnés pour association de malfaiteurs terroristes, Brahim Chnina, le père de la jeune collégienne à l'origine du mensonge, et le prédicateur islamiste Abdelhakim Sefrioui. Tous deux avaient massivement relayé les assertions de la jeune fille qui avait accusé Samuel Paty de discrimination après un cours consacré à la liberté d'expression où le professeur avait montré des caricatures du prophète Mahomet. En première instance, les juges de la cour d'assises ont admis que ni l'un ni l'autre ne connaissaient le futur assassin du professeur, mais qu'ils avaient en connaissance de cause, ce sont les termes de ce verdict, pris le risque, malgré le danger et les menaces visant Samuel Paty, qu'une atteinte volontaire soit portée par un tiers qui devenait leur bras armé. Ils ont, ajoute la Cour, contribué à créer un état d'esprit propre à susciter le crime en attisant la colère et la haine d'un esprit radicalisé. La défense d'Abdelhakim Sefrioui va s'efforcer de démontrer l'absence d'intentionnalité et l'absence d'une entente entre les deux hommes. Elle plaide l'acquittement, une défense qui s'annonce aussi plus offensive, elle entend remettre en cause le cours de Samuel Paty. Les 4 avocats du prédicateur islamiste ont également fait citer l'ancien garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti et l'actuel ministre de l'Intérieur Laurent Nunez pour les interroger sur les défaillances qui ont conduit à l'assassinat. Leur présence de ces deux témoins à la barre reste encore incertaine.
Merci Florence Sturm, mais je précise que le verdict est attendu le 27 février. Pour continuer d'évoquer ce procès, invité à présent de la rédaction Chantal Anglade, professeure détachée de l'éducation nationale et intervenante pour l'Association française des victimes du terrorisme. Bonjour madame.
Bonjour Thomas.
Lors du procès, en première instance, vous aviez accompagné 7 classes de terminale avec leurs professeurs, lors de 7 audiences différentes, des élèves qui... au moment de l'assassinat de Samuel Paty, avaient tous l'âge de ces collégiens qui ont cru à la rumeur visant le professeur. Quel était l'objectif de votre travail avec ces enfants ?
Le premier objectif était évidemment de montrer à ces élèves quelle est la réponse de la justice au terrorisme. Et donc, aller dans une salle d'audience, c'est voir la justice en exercice et donc voir comment s'applique cette justice démocratique et l'état de droit. Dans un deuxième temps, l'objectif pour moi, et j'avoue que c'était un objectif personnel à l'origine, était de comprendre comment des jeunes gens qui avaient 13 ou 14 ans lors de l'assassinat de Samuel Paty ont pu croire ou faire mine de croire une rumeur et d'autre part désigner le professeur à l'assassin.
Dans le compte-rendu de vos travaux, vous vous interrogez sur l'existence ou non, je vous cite, d'une génération Paty parmi les élèves. Que signifie cette expression et cette interrogation ?
Alors, il s'agissait de comprendre si en 2020, après le confinement par exemple, est-ce que sur les réseaux sociaux, on se faisait une autre identité ? Pourquoi ces élèves-là, cette classe d'âge, a été sensible, encore une fois, à une rumeur dont ils savaient qu'elle était fausse, puisqu'ils me l'ont dit. C'est-à-dire que les anciens élèves de Samuel Paty disent qu'il s'agissait d'une rumeur de couloir et qu'eux-mêmes savaient qu'elle était fausse. Pourquoi la colporte-t-on ? Et donc j'ai obtenu un certain nombre de réponses de la part d'anciens élèves de Samuel Paty, mais aussi de 200 élèves du même âge.
Et quelle réponse, justement ?
Eh ben, par exemple, et c'est très intéressant compte tenu des enjeux du procès en appel, ils disent que ce qui les a confortés, c'est que des adultes propagent eux aussi la rumeur. Puisque, vous savez, on dit toujours que l'élément clé, c'est la jeune fille qui a menti. Mais selon les élèves de 4e et de 3e de cette année-là, c'est surtout les vidéos du père de la jeune fille et la deuxième vidéo faite par Abdelhakim Sefrioui qui les ont convaincus qu'il s'agissait de la vérité. En quelque sorte, les adultes faisaient figure d'autorité, un peu, vous voyez, comme dans l'expérience de Milgram. Un adulte est une autorité, on le croit et on le suit.
Cette expression donc de génération Paty, vous l'appliquez aux élèves, mais pas seulement, également aux professeurs avec qui les assassinats de Samuel Paty, de Dominique Bernard ont vu le terrorisme prendre l'école pour cible. Vous-même, vous êtes aujourd'hui, je l'ai dit, donc professeur détaché de l'éducation pour vous consacrer donc pleinement à ces sujets. Qu'est-ce que vous avez pu observer du côté des professeurs ? Est-ce que l'assassinat de Samuel Paty continue encore aujourd'hui à travailler le corps enseignant ?
Oh, c'est certain, c'est complètement certain. D'autant qu'il a été suivi par l'assassinat de Dominique Bernard, bien entendu, et les professeurs ont connu un choc épouvantable. Et en quelque sorte, ce qui s'est joué, c'est le lien prof-élève, le lien très important entre un professeur et ses élèves, et entre des élèves et leurs professeurs. Et donc ce lien a été détruit par l'assassinat de Samuel Paty. Il s'agissait pour moi aussi de l'interroger, de le penser, de le verbaliser, afin, si possible, de le réparer.
C'est vrai qu'on entend parfois qu'il existerait une défiance entre les élèves et les professeurs qui rendrait difficile donc le fait d'observer en classe toutes ces questions liées à l'assassinat de Samuel Paty, mais au-delà tous les sujets sous-jacents, on va dire, relatifs au terrorisme, à la laïcité, au fondamentalisme religieux. Est-ce que cette défiance ou cette méfiance de la part des élèves avec lesquels vous avez travaillé, c'est un phénomène que vous avez pu vous-même observer ?
Ben écoutez, cette défiance-là, c'est-à-dire liée à la laïcité, à toutes ces questions, est une défiance que nous devons, en tant que professeurs, accueillir, je dirais pas accepter, mais nous devons l'accueillir et nous devons sans cesse réexpliquer ce qu'est la laïcité. C'est tout à fait différent, vous voyez. C'est-à-dire que ce qui s'est passé au moment de l'assassinat de Samuel Paty, c'est vraiment une rupture, c'est vraiment un choc pour les professeurs. Expliquer la laïcité, à mon avis, ça fait partie de leur travail. Et il y a un certain nombre d'élèves qui, effectivement, par peur de ne pas être acceptés, peut-être, ont une défiance. Et je pense que dans 95% des cas, lorsqu'on explique, on se comprend.
Merci Chantal Anglade, professeure, je le rappelle, détachée donc de l'Éducation nationale, intervenante pour l'Association française des victimes du terrorisme, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Louise Guérin pour la préparation. À cette semaine seulement des municipales, plusieurs maires sortants ont d'ores et déjà été mis hors jeu par la justice, notamment à Toulon, à Saint-Étienne, à Roubaix, et dernier exemple en date à Orange, le maire de la ville, Yann Bompard, soupçonné d'avoir occupé un emploi fictif de collaborateur parlementaire auprès de la députée RN du Vaucluse, Marie-France Leroy, a été condamnée ce matin à 5 ans d'inéligibilité. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Et cette décision, donc Stéphane, vient mettre un terme en réalité à 30 années de dynastie de l'extrême droite à la tête de la ville.
Oui, vraisemblablement, car le père de Yann Bompard, Jacques Bompard, 82 ans, n'est a priori pas en mesure de se présenter pour conserver la mairie dans le giron de la famille. C'est lui, le patriarche Jacques Bompard, qui conquiert la ville d'Orange il y a 30 ans, en 1995. À l'époque, il est encarté au Front National, dont il est l'un des membres fondateurs avec Jean-Marie Le Pen, et il est l'un des quatre maires élus sous les couleurs du FN, avec Jean-Marie Le Chevalier à Toulon, Daniel Simon-Pierry à Marignane et Catherine Maigret à Vitrolles. En revanche, il est le seul à s'être implanté durablement, puisqu'il a été réélu pour un cinquième mandat en 2020. Il avait alors, et depuis quelque temps déjà, pris ses distances avec le Front National, parti qu'il a quitté en 2005, rejoignant le Mouvement pour la France de Philippe de Villiers, avant de fonder son propre parti politique, la Ligue du Sud, en 2010. Mais en novembre 2021, Jacques Bompard avait dû abandonner son mandat de maire, suite à une condamnation à 5 ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt. L'affaire remontait à l'année 2005, la mairie d'Orange avait vendu à la fille et au gendre de Jacques Bompard un local qu'ils avaient eux-mêmes revendu et sur lequel ils avaient réalisé une importante plus-value. Contraint à la démission, Jacques Bompard avait alors installé son fils, Yann, dans le fauteuil de maire. Un poste que ce dernier doit aujourd'hui lui aussi abandonner car il est à son tour condamné à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Lui, c'est pour emploi fictif. Yann Bompard avait en effet conservé un emploi de collaborateur parlementaire auprès de la députée du Rassemblement National Marie-France Leroy pendant presque un an et demi, de novembre 2021 à février 2023, alors qu'il était devenu maire d'Orange. Il ne va donc pas pouvoir se représenter le 15 mars prochain, pas plus que son père, dont ni l'inéligibilité de 5 ans court jusqu'en novembre 2026.
Merci Stéphane Robert.
Fermera, fermera pas.
4 jours après la cacophonie autour de l'avenir du site de Bétarame, au cœur d'un vaste scandale de violence physique, sexuelle, le secrétariat général de l'enseignement catholique présentait ce matin son plan d'action. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Et a priori, l'établissement des Pyrénées-Orientales devrait donc bel et bien fermer ses portes, Hakim, mais pas tout de suite.
Oui, effectivement, Guillaume Prévost, le secrétaire général de l'enseignement catholique, a bien confirmé que Bétarame allait bien fermer, car la situation était plus tenable, notamment vis-à-vis des victimes d'un point de vue symbolique. Pour autant, le transfert des 160 collégiens qui sont toujours scolarisés vers l'ensemble scolaire du Bourg-Hameau et Aigon à 4 km ne pourra pas s'effectuer avant au moins la rentrée prochaine pour des questions d'ordre logistique, mais aussi financière, car ce transfert va coûter environ 4,5 millions d'euros au secrétaire général de l'enseignement catholique, Guillaume Prévost.
Aujourd'hui, les conditions de ces déménagements ne sont pas pleinement remplies. Nous sommes au travail, collectivement, Pierre-Vincent Guéret, le président de la FNOGEC, Hélène Aubignat, la présidente des associations de parents d'élèves, et moi-même, en lien avec l'ensemble des parties prenantes, pour que ces conditions soient réunies avant l'été. Aussi, je vous donne rendez-vous avant l'été pour pouvoir clarifier les conditions dans lesquelles le projet éducatif de l'établissement du Bourg-Hameau pourra sereinement aller à la rencontre des besoins des enfants et des familles de la vallée du Gave.
Le secrétaire général de l'enseignement catholique a également confirmé qu'il fallait aussi veiller à ce que Bétarame et surtout la congrégation des pères de Bétarame ne soient pas insolvables afin que les locaux à qui appartiennent la congrégation ne soient pas bloqués afin que cette somme qui pourrait par exemple servir lors de la vente puisse servir notamment à financer les victimes lors des différentes actions judiciaires aussi bien au civil qu'au pénal.
Merci à Kim Kasmi ainsi qu'à Virginie Landa pour les moyens techniques. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi calme et sec à l'est. En revanche, une nouvelle perturbation abordera la façade atlantique. Trois départements, le Finistère, le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine, restent placés en vigilance orange. Plus inondation quant aux températures. Elles seront comprises entre 4 et 13 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nina Malray. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Mathieu Laurent pour le prochain journal de la rédaction.